DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, une heure de plus en Allemagne. Nous sommes le lundi 17 février 2020. Dans l'actualité ce soir, la mort en prison de Kizito Mihigo. Les autorités rwandaises affirment qu'il s'est suicidé dans sa cellule. L'artiste qui était critique envers le gouvernement avait été arrêté pour avoir voulu quitter le Rwanda. Au Cameroun, la mort de villageois tués par des hommes armés dans une région anglophone relance le débat sur le nombre de plus en plus croissant de victimes civiles dans les affrontements entre l'armée et les rebelles séparatistes. Nous ferons le point. Et puis nous reviendrons sur les divisions de l'Union européenne face aux enjeux sécuritaires, notamment sur le continent africain. Voilà donc pour le programme. Mais on commence d'abord par le Flash Info préparé et présenté par Bob Barry.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Union européenne va participer à la surveillance de l'embargo sur les armes dans le conflit libyen. L'annonce a été faite ce lundi par plusieurs ministres des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion à Bruxelles. Et selon le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, un accord de principe a été trouvé pour cette nouvelle mission de l'UE. L'unanimité des 27 était nécessaire pour lancer cette nouvelle mission. Elle a été trouvée lorsque l'Autriche a levé ses réserves après avoir obtenu sa satisfaction sur ses préoccupations liées à la politique de migration. La surveillance de l'embargo sur les armes ne sera plus seulement assurée par des satellites, mais aussi par des navires en Méditerranée orientale. Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans le courant de ce journal.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont aussi prolongé pour un an des sanctions contre le Bélarus.
En plus de l'embargo sur les armes, ces sanctions touchent également quatre personnalités de l'ex-République soviétique frappées d'une interdiction de voyager et dont les avoirs dans l'Union européenne sont gelés. Ces quatre personnes sont mises en cause pour les disparitions de deux opposants politiques, d'un homme d'affaires et d'un journaliste en 1999 et en 2000, précise en tout cas le communiqué de Bruxelles. Les États-Unis ont évacué quelques 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon. Et pendant ce temps, le bilan de l'épidémie continue à grimper en Chine. Au cours des dernières 24 heures, l'épidémie a encore tué 105 personnes en Chine continentale, portant le total dans le pays à 1770 morts. Depuis l'apparition du virus mortel en décembre à Wuhan, dans le centre donc du pays, le nombre de contaminations s'élève désormais à au moins 70 500 cas en Chine continentale et près de 800 signalés dans une trentaine d'autres pays. Les autorités chinoises qui tentent d'endiguer la propagation du Covid-19 ont demandé aux personnes guéries du coronavirus de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades. Le plasma des anciens patients infectés par le virus mortel contiendrait des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints.
Un charnier découvert dans la Ghouta orientale en Syrie.
Selon l'armée syrienne, 70 corps de civils et de militaires exécutés ont été retrouvés dans une fosse commune dans l'ex-bastion rebelle aux portes de Damas. Le charnier a été découvert dans les champs d'Alab, près de la ville de Douma, à l'est de la capitale syrienne, a annoncé l'agence officielle Sana tard dimanche soir. Selon les Nations Unies, le conflit dans le nord-ouest de la Syrie a provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis le début de l'offensive du régime en décembre.
En Italie, à présent, Matteo Salvini provoque un tollé en critiquant les avortements d'étrangères.
Le chef de l'extrême droite italienne a déclenché une vague d'indignation après avoir dénoncé le recours fréquent de femmes étrangères aux urgences médicales pour des avortements en raison d'un style de vie non civilisé, a déclaré Matteo Salvini. Le chef de l'extrême droite italienne estime que certaines femmes ont pris les urgences pour un distributeur automatique de soins sans payer un centime. Il est temps, selon M. Salvini, de dire stop aux milliers de citoyens non italiens qui campent aux urgences. Ces propos ont suscité un tollé dans la classe politique. Le chef du parti démocrate centre-gauche au pouvoir, donc en Italie, Nicola Zingaretti, dénonce les insultes et les théories extravagantes de M. Salvini. Enfin, ici, en Allemagne, le gouvernement fédéral a condamné des projets d'attentats effrayants contre plusieurs mosquées du pays par un groupuscule d'extrême droite qui vient d'être démantelé. Le groupe comptait s'en prendre à des mosquées dans une dizaine de régions en Allemagne, mais aussi des hommes politiques et des demandeurs d'asile. Vendredi dernier, 12 membres du groupe d'extrême droite ont été arrêtés puis placés en détention. Le chef présumé du groupe connu est surveillé depuis plusieurs mois par les autorités, a détaillé ses plans lors d'une réunion organisée avec ses complices. Selon la presse allemande, les enquêteurs ont eu connaissance de cette réunion secrète grâce notamment à un informateur infiltré.
C'était les nouvelles avec Bob Barry. Merci Bob. Vous écoutez la DW, il est 17h05 en temps universel.
DW.
Et Mireille Dron nous a rejoint à présent en studio pour la suite du journal. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Carole, bonsoir à toutes et à tous.
La nouvelle est tombée ce matin. Le célèbre chanteur rwandais Kizito Mihigo est mort. Selon le communiqué publié par la police rwandaise, il se serait suicidé dans sa cellule après son arrestation le 13 février dernier.
Une version que contestent certains Rwandais qui rappellent que les chansons de Kizito Mihigo ont parfois agacé le président Paul Kagame. La star du gospel avait été arrêté dans le sud du pays, tout près de la frontière avec le Burundi, où la police a fait savoir qu'il tentait de fuir le Rwanda. Les détails avec Étienne Gatanasi, notre correspondant à Kigali.
Il y a des fois où je me sens comme une larme.
L'ancien étudiant du Conservatoire de musique de Paris ne chantera plus. Selon la police rwandaise, le chanteur âgé de 38 ans se serait suicidé dans sa cellule de la station de police de Remera à Kigali. Marie-Michel Moza, porte-parole du Bureau national des enquêtes.
L'information donnée par ses gardes dit qu'il s'est servi d'un drap pour se pendre à la fenêtre de sa cellule.
Sur les réseaux sociaux, l'opposition principalement basée à l'étranger conteste la version du suicide avancée par les autorités. John Williams Nwari, journaliste politique et ami de Kizito Mihigo, s'étonne du fait que celui-ci ait pu décider de mettre fin à ses jours.
Cela n'est pas dans son caractère de penser à se suicider. Je ne contredis pas les autorités qui mènent déjà une enquête, mais il n'est pas ce type de personne.
Jusqu'en 2014, la carrière de Kizito Mihigo a en effet été sans erreur de parcours. Chantant la réconciliation, lui-même rescapé du génocide, Kizito Mihigo, jusque-là apprécié par le président rwandais Paul Kagame, tombe en disgrâce en avril 2014. Kizito Mihigo est ensuite condamné à une peine de 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement. Il passe près de 4 ans en détention avant d'être libéré. À sa libération en septembre 2018, Kizito Mihigo, dans une interview exclusive, confiait ceci à la Deutsche Welle.
Depuis le jour de mon arrestation, au mois d'avril 2014, j'avais voulu commencer ces procédures pénales avec une attitude d'humilité, en demandant pardon au président de la République, puisque vous savez que les crimes dont j'étais accusé, c'était contre le président de la République et le pouvoir en général.
À sa sortie de prison, Kizito Mihigo ne sera plus invité aux grands événements publics où il avait l'habitude d'entonner l'hymne national. Selon des sources proches du chanteur, ceci aurait constitué une des raisons pour lesquelles il a tenté de fuir vers le Burundi la semaine dernière. Cette fuite et son arrestation lui ont valu une accusation de traverser la frontière illégalement, avec pour but de se joindre au groupe terroriste ayant pour intention de déstabiliser le Rwanda. Étienne Gatanasi à Kigali pour la Deutsche Welle.
Viens visiter le Rwanda.
Frédéric de Klerk a fait son mea culpa. Le dernier président sud-africain de l'apartheid s'est excusé aujourd'hui après avoir provoqué une vive polémique dans le pays en niant la gravité du système ségrégationniste tombé officiellement en 1994.
Au Cameroun à présent, l'armée dément ce lundi avoir tué 22 civils dont des enfants vendredi dernier. Il s'agirait selon l'armée d'un malheureux accident après des échanges de tirs entre militaires et séparatistes. Ce démenti survient alors que 7 militaires devait comparaître lundi pour avoir exécuté en 2015 deux femmes et leurs enfants. Les violences entre les séparatistes et l'armée camerounaise ont fait des milliers de morts dans les régions anglophones du pays. On fait le point avec Réliou Koubakin.
Amnesty International indique qu'il est difficile d'avoir des informations fiables sur les victimes civiles dans la zone anglophone. Les gens ont peur de l'armée des groupes séparatistes, constate Fabien Hoffner de l'ONG de défense des droits de l'homme. Depuis fin 2019, les violences dans cette zone ont fait plus de 3000 morts, 679 000 personnes ont fui leur combat et 600 000 enfants ont été privés d'accès à l'éducation selon Human Rights Watch. Mais depuis le début de cette année, il n'y a toujours pas d'accalmie dans les violences contre les civils et la situation est préoccupante, selon Paul Guillaumeni, coordonnateur national du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme.
Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on comptait au moins 142 morts. Et dans les régions de l'extrême nord, on comptait environ 47 morts. Nous ne faisons pas cas des gens qui sont blessés, des centres de santé qui sont détruits, incendiés, des maisons qui sont incendiées, des moyens de suivi qui sont détruits.
Avant le double scrutin du 9 février dernier, Human Rights Watch a fait savoir qu'une centaine de personnes ont été enlevées. 8000 autres ont fui vers le Nigeria, ajoute le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les séparatistes sont toujours actifs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a eu des opérations militaires pour certaines extrêmement violentes et les atrocités se multiplient, explique Fabien Hoffner d'Amnesty International. L'ONG s'est aussi rendue dans l'extrême nord du Cameroun fin 2019, où les militaires combattent la secte islamiste Boko Haram et où les civils sont aussi victimes des violences. Fabien Hoffner.
Les villages frontaliers du Nigeria continuent de subir à des rythmes extrêmement réguliers des assauts de ces groupes armés qui s'accompagnent le plus souvent de pillages de biens et également assez régulièrement des enlèvements, des homicides, toutes sortes d'exactions. Dans les dérives qu'ont pu amener la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord avec notamment des morts de civils par l'armée camerounaise, il y a un vrai problème de volonté, sans doute politique, de juger ces militaires-là.
Amnesty International souhaite que justice soit rendue pour la violence subie par ces civils. Cela peut s'accompagner, propose l'ONG, par des enquêtes indépendantes sur le terrain. Selon Human Rights Watch, l'impunité qui sévit ne fait qu'attiser ce cycle dévastateur de violence.
Les violences contre les civils au Cameroun et le massacre du 14 février dernier n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, Mireille.
Oui, le ministre de la Défense parle dans un communiqué d'un malheureux accident et de dommages collatéraux, mais pas d'excuses, pas un mot pour les victimes, s'insurge Biboussi sur Twitter. Et ils sont nombreux comme lui, humains du monde entier, indignez-vous, appelle Alice sur Twitter également. Actu Cameroun souligne que le ministère de la Défense nie toute implication de l'armée dans ce massacre en régions anglophones. Pourtant, affirme l'association Survie, la communication officielle ne laisse pas de doute. L'armée a tiré dans le tas et brûlé une partie du village de cette région anglophone. Parler de malheureux accidents puis de regrettables incidents, comme le fait le ministère de la Défense, est obscène, écrit Survie. L'association observe que depuis des mois, le régime du président Biya prétend que la situation s'améliore dans les régions anglophones. Pour une fois, grâce à l'ONU, la médiatisation d'un massacre rappelle que la situation est tout autre. La guerre continue, l'association. L'agence Cameroun Presse rapporte de son côté que civils et activistes demandent l'ouverture d'une enquête sur ce massacre de femmes et d'enfants.
Et vous pouvez continuer de réagir à l'actualité au Cameroun et ailleurs sur le continent africain. Nous écrivons par exemple sur Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Au Burkina Faso, une attaque contre une église protestante a fait 24 morts hier. L'attaque s'est déroulée dans le nord du pays, une région régulièrement ensanglantée par des violences djihadistes où 5 soldats ont également péri dans l'explosion d'un engin artisanal. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts. L'insécurité, il en était également question à la 56e conférence sur la sécurité de Munich qui s'est achevée hier dimanche.
La ministre centrafricaine de la Défense qui était présente à cette réunion a accusé les groupes armés qui contrôlent plusieurs régions du pays de se financer en pillant les ressources minières. Marie-Noëlle Koyara évoque aussi les initiatives de paix pour ramener la paix dans la capitale, Bangui. Elle est interrogée par Simon Young.
Jusqu'à l'année dernière, on parlait de trois quarts du pays, mais aujourd'hui, une bonne moitié du pays n'est pas occupée par les groupes armés. Même les zones qui sont occupées par les groupes armés, c'est surtout au niveau de certaines villes. Et naturellement, dans les zones les plus riches en ressources naturelles. Et vous comprenez bien que c'est stratégique pour ces groupes armés, occuper les zones riches en ressources naturelles, pour pouvoir se faire de l'argent et acheter des armes pour continuer à résister.
Mais la violence continue, la Croix-Rouge a réduit ses activités après s'être fait attaquer. Il y a régulièrement des attaques contre les civils. Comment mieux protéger ces civils ?
Bon, c'est des attaques ponctuelles. Ce n'est pas généralisé comme en 2013, 2014, jusqu'en 2015. Aujourd'hui, nous assistons à des attaques qui sont ciblées dans certaines zones. Malheureusement, si les gens de Croix-Rouge se retrouvent dans ces zones d'attaque, évidemment, ils deviennent des cibles aussi.
Même dans les quartiers de Bangui, l'insécurité et le règne des groupes armés continuent. La MINUSMA et les forces de l'ordre refont des patrouilles depuis quelques semaines. Est-ce que la situation s'améliore ?
La situation s'améliore très bien, je peux vous le dire. Kilomètre 5 n'est pas un quartier musulman, mais c'est un quartier d'affaires, le quartier populaire de la ville de Bangui. Donc beaucoup des éléments des anciens groupes armés se sont retranchés là-bas. Ils se sont organisés en autodéfense et ça a bloqué les activités commerciales. Il y a eu des initiatives où les commerçants se sont organisés pour essayer de mettre hors d'état de nuire les groupes d'autodéfense. Donc aujourd'hui, tous ces groupes d'autodéfense qui sont au moins une centaine ont écrit au gouvernement, ils veulent déposer les armes. Les commerçants aussi sont d'accord de déposer les armes. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ces patrouilles, c'est pour justement continuer à sécuriser cette initiative qui est prise au niveau du kilomètre 5.
Voilà, c'était la mini-centre africaine de la défense, Marie-Noël Koyara, interrogée par Simon Young. Direction à présent le Mali, précisément la région de Kidal, où l'armée malienne est de retour depuis quelques jours seulement.
La région compte un grand nombre de sites d'orpaillage, où des centaines de jeunes travaillent jour et nuit à la recherche d'or. Cette activité, contrôlée par la coordination des mouvements de la Zawad, signataire de l'accord de paix, a certes réduit le taux de banditisme dans la région, mais elle permet aussi aux groupes armés, souvent liés à Al-Qaïda, de se financer. On écoute le reportage de notre correspondant Baba Ahmed sur un de ces sites d'orpaillage près de la ville de Kidal.
Une poussière enveloppe la terre à cause des machines qui broient les pierres à la recherche d'or sur ces sites d'orpaillage situés à quelques kilomètres de la ville de Kidal. Assis devant lui, un récipient contenant de la boue, Smaïl Moussa, un orpailleur de la tribu Toubou, originaire du Niger, vient d'extraire quelques grammes d'or grâce à une technique au mercure.
C'est de l'or que je viens d'extraire de la terre. J'ai ajouté à la boue des poudres de pierre, du mercure, du savon, du sel. C'est comme ça qu'on extrait l'or. Nous allons maintenant brûler ce mélange d'or et de mercure.
La région compte au moins 4 grands sites d'orpaillage sur lesquels travaillent plus d'un millier de personnes. La sécurisation des sites est assurée par la coordination des mouvements de la Zawad, SEMA, un groupe signataire de l'accord de paix avec Bamako en 2015. Selon un orpailleur, pour s'installer sur un site, il faut payer 50 000 francs CFA aux hommes de la SEMA et chaque mois, chaque orpailleur doit payer 10 000 francs CFA. Mais selon une source anonyme, cet argent ne bénéficie pas qu'à la SEMA, mais aussi aux organisations djihadistes présentes dans la région. Ibrahim Maïga est chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Il n'exclut pas que les groupes djihadistes se financent en effet grâce aux mines d'or.
Des liens troubles ont déjà été mis de l'avant par différents rapports des experts des Nations Unies qui évoquent justement des liens entre des individus du JNIM et des individus appartenant à des groupes signataires membres de la CMA. Donc il n'est pas exclu que des individus relevant ou appartenant à des groupes terroristes, en l'occurrence le JNIM dans la zone, joue un rôle non seulement dans la sécurisation des sites, mais aussi dans le prélèvement des taxes.
Mais dans la ville de Kidal, la population préfère parler plutôt de l'absorption du chômage par ces sites d'orpaillage. Atiyoub Ag Intala, responsable de l'organisation de la société civile de Kidal.
Avant que l'or ne soit découvert dans la région de Kidal, il y a tellement de banditisme qu'on saute même dans des maisons privées. Les braquages, c'est tout le temps. Depuis qu'on a découvert l'or, les jeunes sont occupés par l'orpaillage. Il y a zéro braquage.
La semaine dernière, un premier bataillon de l'armée malienne est arrivé dans la ville de Kidal pour assurer la sécurité de la ville. Mais il n'est pas sûr qu'il s'occupera de ces sites d'orpaillage. Baba Ahmed, de retour de Kidal pour la DTV.
Au Niger, à présent, une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans une bousculade lors d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés déplacés à Djifa. C'est dans le sud-est du pays, selon des sources médicales et humanitaires.
Aboubakar, journaliste, précise sur Twitter que les victimes de cette bousculade, qui a eu lieu lors d'une distribution de vivres à la Maison des Jeunes et de la Culture, sont en majorité des femmes et des enfants qui cherchaient à bénéficier du don du gouverneur. Triste début de semaine, s'exclame Idrissa, un autre twitto. Une vingtaine de morts ce jour à Difa suite à une bousculade lors d'une distribution de vivres à des réfugiés nigérians. Chaque jour avec son lot de malheurs pour les populations locales des régions de Difa et Tillabéri, écrit-il. Georges d'Abidjan trouve déplorable que des gens soient morts alors qu'ils venaient chercher de l'aide parce qu'ils avaient faim. Et Ali souligne, lui, que cette situation humanitaire est vraiment difficile.
En bref, la République démocratique du Congo doit revoir son budget 2020 à la baisse de près de moitié. C'est une annonce du ministère des Finances. Cette réduction est un coup dur pour les grands projets anti-pauvreté du président Félix Tshisekedi. La loi de finances 2020 prévoyait un budget de 10,59 milliards de dollars pour quelques 80 millions d'habitants, dont la majorité vit avec moins de 2 dollars par jour. Les avocats des victimes de l'ancien président tchadien Hissène Habré accusent le Tchad de faillir à son obligation d'indemnisation. Le 25 mars 2015, une cour criminelle spéciale siégeant à N'Djamena a condamné 25 ex-collaborateurs de Hissène Habré. La cour a aussi condamné l'État tchadien à verser son 15 milliards de francs CFA de réparation à 7000 victimes. Mais depuis, rien n'a été fait.
Reid Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch et avocat des victimes, s'est rendu il y a une semaine au Tchad pour rencontrer les autorités tchadiennes. Au cours d'une interview accordée à Blaise Diarustone, notre correspondant à N'Djamena, la capitale tchadienne, Reid Brody n'a pas caché sa déception.
C'est notre interrogation à nous tous. Pourquoi cette indemnisation tarde à venir? Jusqu'à ce jour, il n'y a même pas un début d'exécution. Donc, la visite ici, c'est pour pousser les autorités tchadiennes à d'abord aider à mettre en place le jugement de Dakar, qui se traduit par un fonds, mais surtout de respecter le jugement tchadien. Le président lui-même avait dit, il y a des années de cela, qu'après que les jugements seraient rendus, que les victimes seront indemnisées. Je pense que ce serait tout à leur honneur de le faire. Nous avons rencontré des ministres, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, des ambassades, surtout les victimes.
Est-ce que les autorités tchadiennes ont affiché, lors de ces rencontres, une volonté d'exécuter cette décision, celle de N'Djamena, bien sûr?
J'ai l'impression que les autorités se cachent derrière l'autre décision. L'exécution de la décision de Dakar se traduit par la création d'un fonds d'indemnisation de l'Union africaine. Avec l'argent de l'Union africaine, de Hissène Habré, des contribuables, mais la décision de N'Djamena est du seul ressort du gouvernement tchadien. On nous parle de la double indemnisation, comme si ces pauvres victimes allaient recevoir trop d'argent.
En cas de non-application de la décision de N'Djamena, est-ce qu'il y a d'autres voies de recours pour contraindre le gouvernement à exécuter cette décision?
Mais il y a une plainte en cours contre le Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme. Il y a des rapports spéciaux des Nations unies qui ont sommé le Tchad à respecter d'abord cette obligation d'indemniser les victimes. Le Tchad a failli à ses obligations.
C'était Reid Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch et avocat des victimes de Hissène Habré. Il répondait à Dariuston Blaise. Justice encore, le bras de fer diplomatique et juridique entre Paris et Malabo se poursuit selon Carmelo Nvononka, membre de la délégation de Malabo et ambassadeur de Guinée équatoriale en Belgique et aux Pays-Bas. La France s'est comportée de manière arbitraire et discriminatoire dans l'affaire des biens mal acquis. Il s'exprimait ainsi devant la Cour internationale de justice.
Vous écoutez la DW.
17h23 en temps universel à l'écoute de la DW. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a entamé sa première visite en Afrique subsaharienne par le Sénégal, où des accords ont été signés dimanche dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Mike Pompeo, le plus haut responsable américain, a effectué une tournée en Afrique subsaharienne, ne visite aucun des pays du Sahel touchés par le terrorisme. Le Sénégal, l'Angola et l'Éthiopie, les trois pays visités, auraient été choisis en tant que contributeur majeur à la stabilité régionale. Et Mireille, vous avez recueilli des commentaires à ce sujet.
Oui, des firmes américaines vont investir au Sénégal à la suite d'accords que le pays vient de signer à la faveur de la visite du secrétaire d'État Mike Pompeo, souligne Olivia sur Twitter. Mais sur Facebook, Alban du Bénin trouve qu'actuellement le continent a plutôt besoin d'accords qui allègent le fléau de l'insécurité dans le Sahel et des épidémies Ebola et coronavirus. Et Hiero du Sénégal pense, lui, que les les Américains ne visent que leurs propres intérêts dans les pays visés. Rabiou du Niger observe, lui, que Mike Pompeo ne visite pas les pays visés par le terrorisme, même pas le Niger, son pays donc, qui accueille une base militaire américaine. Ironie ou manière de montrer le désintérêt américain de l'Afrique, s'interroge-t-il. Ibou, un autre tweeto du Niger, lui répond que de toute façon, même après leur passage, le passage des dignitaires étrangers dans le pays, il n'y a aucun changement au niveau des populations vulnérables.
Et sur le continent africain, il y a un autre pays dont la stabilisation reste également une source de préoccupation. Il s'agit de la Libye. Après la conférence de Munich sur la sécurité, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé aujourd'hui de déployer une nouvelle mission navale à l'est des côtes de la Libye. L'objectif est d'empêcher les livraisons d'armes aux belligérants de ce pays.
Mais alors que la majorité des États membres ont soutenu la reprise des opérations navales en Méditerranée, l'Autriche et la Hongrie se sont inquiétés du fait que ces navires militaires pourraient inciter plus de migrants à prendre la mer dans l'espoir d'être sauvés. Fréjus Kenom revient sur les divisions de l'Union européenne face aux enjeux sur le continent africain.
Dans un contexte où le cessez-le-feu obtenu entre les deux camps en conflit en Libye est encore fragile, la situation dans ce pays était un des gros sujets à la conférence sur la sécurité de Munich. Mais l'absence de chefs d'État africains à cette réunion laisse penser que les thèmes africains ne figurent au menu que lorsqu'il y a une menace pour les Européens. Ceux-ci seraient plus prompts lorsqu'il s'agit du Yémen, de l'Afghanistan ou de la Syrie. C'est du moins le point de vue de Dan Smith, directeur du CIPRI, un centre international de recherche sur la paix basée à Stockholm.
Lorsque quelque chose se passe au Sahel, à moins que la conséquence redoutée ne soit l'afflux de migrants, l'Europe n'est pas particulièrement concernée. La Libye se situe juste de l'autre côté de la Méditerranée, alors cela préoccupe. Sinon, on considère que c'est trop loin.
Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, a confié ce matin à son arrivée à Bruxelles que la peur des vagues migratoires ne saurait être le seul critère qui guide l'action des Européens.
Je pense que c'est aussi la sécurité de l'Europe qui se joue en Libye. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit prendre conscience de son rôle afin que notre sécurité ici en Europe soit garantie. Ceux qui placent la question des migrations au premier plan doivent savoir qu'en sauvant la Libye de la faillite et en dotant ce pays de structures sécuritaires fiables, ce problème migratoire pourra être résolu.
Pour Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de la commission préparatoire du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, on ne peut pas reprocher aux Européens de moins s'occuper des sujets africains.
Dans un monde globalisé, tout est lié. La Libye est en Afrique et l'insécurité au Sahel provient de la Libye. Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle l'Occident néglige la sécurité en Afrique.
À l'issue de leur réunion à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères européens sont donc parvenus à surmonter leurs différends et à mettre en place une mission navale qui devra veiller au respect de l'embargo sur les armes en vigueur en Libye.
Fréjus Kenom. En bref, au Soudan, les pourparlers de paix ont été prolongés de 3 semaines. Ces discussions entre le gouvernement et les rebelles soudanais des régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan du Sud auraient dû s'achever par un accord final le 15 février dernier.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Et comme tous les lundis, il est l'heure à présent de faire le tour des grands championnats européens avec Sophie Serpini.
En Ligue 1, match nul surprise du Paris Saint-Germain, 4 partout face au relégable Amiens, alors que le PSG doit affronter Dortmund demain soir en 8e de finale de Ligue des Champions. Ce faux pas a semé le doute au sein du groupe parisien, qui se doit de franchir ce stade de la compétition après 3 échecs de suite face au FC Barcelone, au Real Madrid et à Manchester United. En Première Ligue, le carton du week-end est à mettre au profit d'Arsenal. Les Gunners se sont imposés 4-0 face à Newcastle, avec notamment des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe. De son côté, Liverpool a gagné face à Norwich 1-0 grâce à une réalisation de Sadio Mané. Les Reds sont donc toujours invaincus et sont toujours largement en tête du championnat avec 15 points d'avance sur Manchester City, qui compte cependant un match en moins. Manchester City qui a été suspendu pour 2 saisons de toute compétition européenne par l'UEFA en raison du non-respect du fair play financier. La direction des Citizens a fait appel de cette décision auprès du tribunal arbitral du sport. En Italie, la Lazio de Rome a frappé un grand coup en battant l'Inter Milan 2-1. Les Romains sont maintenant deuxièmes à seulement 1 point de la Juventus qui a, elle, battu Brescia 2-0. En Liga, malgré son match nul 2-2 face au Celta Vigo, le Real Madrid conserve la tête du classement mais ne compte plus 1 point d'avance sur le FC Barcelone, vainqueur 2-1 de Retafe. Enfin, un mot de football portugais avec l'attaquant franco-malien de Porto, Moussa Marega, victime de cris racistes sur la pelouse du Victoria Guimarães, qui a décidé de quitter le terrain à la 71e minute de jeu. Il a ensuite exprimé sa colère sur Instagram et s'en est vivement pris au corps arbitral. « Je remercie les arbitres de ne pas m'avoir protégé et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau », a-t-il écrit. Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, s'est lui dit, et je cite, « indigné par le comportement de certains fans du Vitória Guimarães ».
L'actualité sportive avec Sophie Serbini. Je rappelle que vous pouvez continuer de réagir aux thèmes développés dans nos journaux en nous adressant vos messages sur Facebook. Et puis l'information continue également sur notre site internet DW Français. Il est 17h30 en temps universel, l'heure de retrouver Kosivitiasou pour le magazine Environnement.